Alors nous souhaitons la bienvenue au chariot blanc, ainsi qu'à l'énergie de Michael, ainsi qu'à tous les autres, tous les êtres de lumière qui sont ainsi présents aussi ce soir, pour collaborer avec nous afin de nous aider.
Bienvenue à vous, André, et à tous les êtres de lumière qui sont ici avec vous.
Merci. Alors ce soir, nous sommes réunis pour mieux comprendre de comment est cette roue karmique et comment s'en libérer, se donner des moyens, des façons de s'en libérer, par la conscience, bien sûr. Est-ce que vous avez un commentaire et ou un enseignement à nous faire à ce sujet?
Ce soir, nous allons plutôt procéder par un enseignement, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette loi karmique, puisque pour en sortir, il y a deux autres lois qui doivent être aussi connues. Nous parlerons de la roue karmique en faisant d'abord un commentaire utilisant des termes qui sont symboliques que vous avez connus dans les livres de vos anciens testaments, ainsi que vous les appelez. Parlons de quatre personnages. Celui qui s'appelait Adam et celle qui s'appelait Ève, qui sont la symbolique chez l'être humain, s'il veut bien le comprendre, de ces deux forces féminines et masculines qu'il possède déjà à l'intérieur de lui, quoi qu'il s'y croit dans la division. Ensuite, parlons de leur fils, appelé Caïn et Abel. Un qui représentait la soumission et la capacité de comprendre ce qui était demandé par les parents pour l'exécuter dans l'harmonie. Et l'autre qui s'appelait Abel, qui représente chez l'être humain sa capacité de jalousie et de colère et de haine, et même sa capacité de tuer. Alors, si vous regardez ces quatre personnages symboliques, vous verrez bien qu'ils font partie de vous et qu'ils sont là pour vous enseigner sur votre propre réalité. Si ces personnages symboliques signifient ou symbolisent la naissance ou l'apparition de l'être humain sur la terre, vous comprendrez que déjà, il y avait chez lui trois éléments très importants qui sont encore dans la race et nous dirons de façon significative, qui sont d'abord la capacité de penser, la capacité d'avoir des émotions et la capacité d'action. Nous appellerons ceci le mental, le monde du désir et le monde de l'action. Ces trois mondes qui sont à l'intérieur de vous ont été à l'origine de la création de la loi du karma. Revenez à ce personnage appelé Abel qui a tué son frère dans des moments de violence, c'est-à-dire que dans sa pensée, il croyait que celui-ci était le préféré de son père et de sa mère, et qu'alors ceci était une injustice. Alors, déjà dans sa pensée, il y avait une forme, et nous dirons une forme qui sera manipulée par l'émotion. L'émotion qui viendra grossir la forme, et qui ensuite créera une fonte de dynamisme qui permettra à cet homme de passer à l'action et de tuer son frère, c'est-à-dire en utilisant à la fois sa force pensée et sa force émotionnelle pour créer cette action. Cependant, une fois que le geste est posé et que le contact est véritablement pris avec la mort, puisque dans vos textes anciens, il est dit que c'était la première fois que l'être humain se rendait compte que la mort existait. Alors, avec cette conscience que la mort existe, c'est-à-dire qu'il y a plus qu'un palier de vie, même si ceci, à ce moment-là, n'était pas complètement compris, continue dans cette roue un autre élément d'émotion et de pensée, qui est la culpabilité. Alors, celui qui est coupable, c'est-à-dire celui qui a posé un geste répréhensible, et de l'autre côté, toujours en opposition et en division, celui qui se croit le juge de son frère et qui peut lui dire « Parce que tu as tué, tu mérites d'être tué. » Et ainsi, cette forme pensée s'est agglomérée, elle s'est multipliée dans les peuples anciens, et nous vous dirons qu'elle a créé une forme tellement puissante que cette forme est devenue une loi. Et cette loi est appelée la loi karmique. Elle était appelée dans les temps anciens la loi qui était nommée œil pour œil et dent pour dent, la loi du talion. Alors, à partir même de cette loi, il y avait des êtres qui avaient comme mandat, par exemple, s'ils pouvaient s'apercevoir que quelqu'un avait volé son frère ou avait violé son frère, de l'amener sur la place publique et de lui couper les mains ou de lui couper les pieds ou de lui couper un bras, de lui enlever un œil. Alors, c'était cette loi qui était véritablement mise en action. Mais ce que l'être humain ne savait pas, c'est que la pensée est circulaire, c'est-à-dire qu'elle est comme une courbe. Et lorsque vous les mettez en fonction de quelqu'un d'autre, elle subit cette courbe et elle revient à l'origine, c'est-à-dire qu'elle revient à celui qui l'a émis. De sorte que si la pensée est une pensée de haine, elle finira toujours par revenir à celui qui a émis cette pensée. Comment se réalise cette loi du karma? Elle se réalise d'abord par une autre loi qui vient la supporter, qui est la loi de la réincarnation. Et cette loi, elle est venue avec la pensée des hommes qui se disaient « Celui-ci est tellement mauvais, il est tellement méchant qu'il n'aurait pas assez d'une vie pour expier. » Alors, ces formes pensées agglomérées ont créé la loi de l'incarnation. Voici alors que les êtres se sont réincarnés. Et entre chaque réincarnation, ils ont le choix d'aller dans des paliers où il y a des maîtres plus évolués qui ont accepté de travailler de concert avec les âmes qui veulent être soumises avec ces lois. Ces maîtres sont appelés les maîtres du karma. Leur travail est de veiller à ce que chaque être comprenant le tableau global de ses créations, c'est-à-dire de toutes les courbes qu'il a créées, puisse accepter de revenir sur le plan terrestre pour être capable de libérer ses aspects karmiques. Mais s'il n'y a pas de fin à cette loi, nous vous dirons cette roue pourrait tourner éternellement et vous pourriez être soumise à cette loi de façon indéfinie. D'ailleurs, nous vous dirons qu'il y a déjà plusieurs millions d'années que la majorité d'entre vous sont soumises à cette loi. Cependant, étant donné qu'il y a eu des êtres plus évolués qui ont accepté de franchir cette loi, et de n'émettre que des pensées d'amour, que n'émettre que des vibrations d'amour ou des émotions d'amour, et de ne poser que des gestes d'amour, ils ont commencé à renverser cette loi. S'est créée alors une loi que nous appellerons la loi du sacrifice. La loi du sacrifice est comme une loi qui demande à l'âme d'accepter volontairement de payer les dettes qu'elle a engendrées et ensuite d'enlever dans sa pensée qu'elle est obligée de revenir dans le cycle de l'incarnation pour payer à nouveau d'autres dettes. Celui qui a touché cette forme de conscience qui est suffisamment évoluée pour comprendre commence à développer une forme de vigilance, une vigilance sur les trois chakras de la base, qui sont le mental inférieur, alors il commence à surveiller ses pensées. Chaque fois qu'il a une pensée de haine, ou de colère, ou de jalousie, ou de jugement, aussitôt qu'il en prend conscience, il efface cette pensée et la remplace par une pensée d'amour. Il ne se juge pas et il ne juge pas l'autre. Et progressivement, il développe ce type de comportement. Il fait la même chose avec, nous dirons, le monde astral ou son monde astral ou son corps astral qui est son corps émotionnel ou son corps de désir. Il commence à comprendre que le désir est une roue également, que le désir est la preuve du vide. Et alors, il commence à être capable d'enlever le désir, c'est-à-dire de se tourner vers lui-même et de savoir qu'il a la complétude de ce qu'il est. Et alors, il se détache progressivement de l'émotion et de l'attente. Ensuite, à chaque geste qu'il pose, il essaie d'être suffisamment vigilant pour que dans chacun de ses gestes, il y ait une pensée d'amour. Alors, tout son comportement est en train de changer. Toutes ces vibrations qui le maintenaient dans cette roue très lourde et cette roue karmique et cette roue de réincarnation commencent à se libérer. Et c'est comme si cette énergie est aspirée vers le haut pour être transcendée, pour être purifiée, pour être amenée dans une vibration de plus grand calme et de plus grande paix. Et nous vous dirons, celui qui a compris cette seconde loi du sacrifice, lorsqu'il lui arrive quelque chose, jamais il ne maugrée ou jamais il n'entre dans l'émotion ou se met en colère. Et s'il le fait, il est prudent et il revient en se disant, je n'ai pas à avoir de colère, ni contre mon frère, ni contre moi-même, et je remplace cette émotion par l'amour. Alors, il travaille sur lui-même pour se libérer des émotions encombrantes. Il travaille sur lui-même pour se libérer du désir et pour clarifier aussi sa pensée, afin qu'elle soit libérée de l'ego et libérée du jugement. Alors, une nouvelle forme pensée commence à l'habiter. Là, c'est comme si ses vibrations se transforment et son énergie est en train d'être transmutée. Il est ensuite habité par de nouvelles vibrations. Il est attiré par l'énergie d'ascension. Il est attiré par l'énergie du « je suis ». Et alors, sans cesse, il tourne sa pensée vers cette complétude. Il accepte dans ce passage de cette loi que nous avons appelée la loi du sacrifice, il accepte de sacrifier sa personnalité, c'est-à-dire de ne plus donner d'espace à cette personnalité et d'entrer dans une vibration que nous appellerons la vibration impersonnelle. À ce moment-là, se dissout à l'intérieur de lui tous ces murs anciens qui le maintenaient prisonnier. Et ce sacrifice qu'il a accepté de faire pour se libérer des trois chakras de la base lui ouvre une porte tellement grande qu'il vit d'autres réalités, parfois qu'il ne peut même pas échanger avec ses frères parce qu'il a l'impression d'être seul à vivre ces formes de réalité. Et progressivement, sa pensée lui revient. Et nous vous dirons, elle lui permet aussi de dissoudre même l'individualité afin qu'il devienne un être complètement fondu dans l'énergie la plus parfaite qui est l'énergie du « je suis ». Alors cet être, dans ce grand mouvement d'ouverture à sa propre conscience, devient un entraîneur. Il entraîne avec lui cette conscience collective à laquelle il a participé pour créer cette loi karmique et cette loi d'incarnation et même cette loi du sacrifice qui lui permet de se libérer pour ensuite s'ouvrir dans la loi nouvelle qui est la loi de l'amour. Et là, lorsqu'il touche véritablement cette vérité ou cette réalité, nous vous dirons que sa conscience, que sa connaissance, que sa force et que sa puissance lui apparaissent illimitées. Et que là, il sait de façon définitive qu'il n'aura plus besoin de revenir sur le plan terrestre à travers des événements difficiles, à travers la douleur et la souffrance. Et il ne verra plus ses frères comme quelqu'un avec qui il a des aspects karmiques à régler, mais il les verra comme des êtres qu'il a à aimer, comme ses propres cellules faisant partie du même grand corps qui est le corps christique de, nous dirons, du Christ vivant qui est en train de se créer et nous dirons d'apparaître dans votre génération et dans les générations qui suivront. Et c'est l'enseignement que nous avions à donner sur les aspects karmiques. Alors comprenez bien qu'en passant par la loi du sacrifice et en vous dirigeant vers cette énergie d'ascension qui progressivement envahit vos cellules, vous vous libérez de façon définitive de la loi karmique. Et maintenant, nous serions prêts à répondre à vos questions.
Alors, comme première question, vous en avez déjà parlé dans cet enseignement, mais si vous avez d'autres choses à mentionner, dans comment se libérer des karmas quand je sais que j'ai plusieurs couches ou manteaux d'épaisseur, je veux me soulager ou me libérer. Merci.
Nous vous dirons, en acceptant la loi du sacrifice, c'est-à-dire en acceptant de finir de payer les dettes que vous avez engendrées. Nous avons déjà dit avec plaisir, parce que nous savons que cet exemple vous touche et qu'elle est très proche de votre réalité quotidienne, nous donnons l'exemple de la carte de crédit. Lorsque vous commencez à comprendre qu'une carte de crédit est un lieu de manipulation où vous vous manipulez vous-même et où vous vous êtes manipulé par les autorités de votre société qui ont la capacité et le pouvoir de savoir où vous avez dépensé l'argent, à quel moment, quelle somme, comment vous l'avez fait, nous vous dirons à ce moment-là, vous commencez à réaliser l'illusion qu'il y a dans ceci. Peut-être vous direz-vous, je ne vais pas sacrifier immédiatement cette carte, elle me rend service quelquefois, je préfère la garder dans mon porte-monnaie. Mais vous prenez là des risques. Nous vous dirons, si vous décidez cependant que vous ne voulez plus de ceci et que vous pouvez jouir de votre propre autonomie en payant vos dettes à mesure, alors il se peut que vous preniez vos ciseaux et que vous coupiez cette carte et que vous la mettiez dans la poubelle. Cependant, les dettes que vous aurez encourues, vous avez à les payer. C'est ça la loi du sacrifice, c'est d'accepter de payer ce que vous avez encouru. Lorsque vous dites, mais les manteaux sont très lourds, ils sont très épais, il y a plusieurs couches, est-ce que je devrais payer toute ma vie? Nous vous répondrons, qu'est-ce qu'une vie à côté d'un milliard de vies? Et nous vous dirons de plus que vous avez la capacité, par l'amour et uniquement par cette vibration d'amour, d'être capable de changer un jour en 1000 jours, une année en 1000 années. Et alors, vous pouvez exercer ce pouvoir par l'amour. Lorsqu'on vous blesse, lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous dit des choses qui viennent toucher l'ego ou la personnalité, nous vous dirons, retournez un exemplaire d'amour à cette personne. Et nous vous dirons, la courbe commencera déjà à se former pour que l'amour que vous avez pour vous-même vous revienne de toutes sortes de façons. C'est l'amour qui vous fera supporter de nous dirons ce que nous appelons la loi du sacrifice.
Alors, la prochaine question. Merci d'être. L'entité panda du septième plan enseigne que le karma est une invention inventée par l'homme. Qu'en pensez-vous?
Nous pensons qu'il a raison lorsque nous disons que ceci est issu de la pensée, et nous avons parlé du début de la création et comment cette agglomération de pensées a créé cette forme, car jamais une pensée n'est perdue. Elle crée toujours une forme. Si vous avez une pensée de doute, vous créez la forme du doute. Et si cette pensée va rejoindre le doute de 1000 personnes, c'est un chiffre hypothétique, alors se forme un égrégore. Et un égrégore est un vortex de pensée très puissant qui se matérialise dans la matière. Il en est ainsi pour la loi karmique. C'est une loi que vous avez créée vous-même, donc c'est une loi que vous avez le pouvoir, nous dirons, d'annuler complètement.
Est-ce que toutes nos mauvaises habitudes, nos travers, sont dus à des karmas de vie passée?
Ils sont surtout dus à l'ignorance qui appartient aux trois chakras de la base. Lorsque quelqu'un est ignorant, il peut entrer dans votre maison, ouvrir votre ordinateur et défaire complètement tous les programmes que vous y aviez mis avec tant de soin et tant de temps. Nous vous dirons, s'il n'avait pas été ignorant, il n'aurait pas posé ce geste. Nous vous dirons que l'énergie des trois chakras de la base est l'énergie de l'ignorance. Nous parlons de l'énergie qui est liée au mental inférieur, que vous revoyez surtout sous la forme de la personnalité, et ensuite, nous dirons, de l'émotion et du corps physique qui vous maintiennent dans une énergie tellement dense qu'il vous est impossible d'ouvrir votre pensée à, nous dirons, cette grande loi de l'amour. Mais plus vous allez tourner votre regard vers l'amour, nous dirons, plus vous allez oublier tous ces travers qui vous appartiennent en tournant sans cesse votre pensée vers l'amour, à un moment donné, vous formerez cet égrégore de l'amour qui est d'ailleurs présent dans cette pièce ce soir et nous vous dirons qu'il joue une mélodie extraordinairement belle. Vous avez l'habitude, parce que vous êtes géré par les chakras de la base, et surtout par la personnalité et l'ego, vous êtes habitué de vous juger sans cesse. Vous êtes habitué également de voir davantage vos travers que, nous dirons, le désir profond qui vous habite dans le cœur de vous tourner vers la source, vers la lumière, vers la vérité, vers la paix, vers la justice, enfin vers tout ce qui apporte, nous dirons, l'harmonie dans l'être et dans l'âme. Alors, si vous changez votre comportement et au lieu de toujours mettre le focus sur les choses que vous avez faites et que vous jugez incorrectes, mettez le focus sur l'amour que vous avez pour vous-même et accueillez-vous dans toutes vos limitations sans jamais vous juger et en vous disant « l'amour que j'aimais pour moi-même » va ensuite me revenir, mais va être émise dans l'univers tout entier, et c'est ainsi que la Terre pourra devenir la planète de l'amour.
Je suis sceptique sur la réincarnation, car à 60 ans, j'ai l'impression de commencer à vivre. Or, comment croire aux vies antérieures? Merci, je vous aime.
Nous vous aimons également. Nous vous dirons que c'est bien jeune, 60 ans, dans un premier temps. Nous vous dirons, lorsque vous dites que vous commencez à vivre, c'est plutôt que vous commencez à réaliser que vous franchissez une autre étape de conscience. Vous avez l'impression de commencer à vivre, mais véritablement vous avez toujours vécu. Vous viviez dans d'autres paliers, dans des paliers qui avaient d'autres plans vibratoires ou d'autres formes vibratoires. Mais voici que votre conscience, à force d'évoluer, commence à s'ouvrir et elle vous appelle vers cette lumière et vers cet amour et vers cette nouvelle conscience de l'être qui est en train d'apparaître sur le plan terrestre, c'est-à-dire le nouvel être humain ou le nouvel Adam. Et alors vous avez l'impression de débuter. Vous avez bien raison, puisque vous êtes illimité, vous êtes infini. Et là où vous croyez qu'il y a une fin, il n'y en a pas. Vous avez toujours cru que la mort était la fin, mais nous vous dirons que la mort n'existe pas parce qu'il n'y a pas de fin. Il se peut bien sûr que le corps physique disparaisse, mais le corps physique n'est qu'une gaine de votre être. Il n'est pas votre être, autant que votre corps émotionnel et votre corps mental inférieur ne sont pas vous. Ils sont des manifestations dans la matière de pensées très anciennes et d'encodages très anciens. Mais ils ne sont pas votre réalité. Ils ne sont pas votre essence. Votre essence, c'est une essence infinie. C'est une essence divine. Et nous vous dirons, lorsque vous aurez même compris que le temps n'existe pas, il n'y aura plus d'âge pour vous. Et lorsque vous dites que vous avez 60 ans, que diriez-vous si nous vous disions que vous avez 60 000 ans? Alors, le temps n'existe pas, ni dans le passé, ni dans le futur. Tout est éternel présent dans le « Je suis » du « Je suis » qu'est le Père. Et que vous êtes tous d'ailleurs.
Est-il possible de se libérer d'un karma sans que l'on sache de quel karma il s'agissait, et ceci par une méthode quelconque?
Certainement. Nous vous dirons d'abord, vous ne savez pas toujours les karmas que vous avez créés. Nous donnons un exemple très clair. Imaginez qu'un homme est rempli de haine et de colère face à son père ou à un collègue de travail ou à quelqu'un qu'il connaît. Mais cet homme est handicapé et il est cloué sur son lit. Mais ses pensées de haine ne le quittent pas et dans sa haine, il se dit « Je souhaiterais à cet homme qu'il se fasse trancher la tête. » Quelques semaines plus tard, il apprend que cet homme a eu la tête tranchée. Que s'est-il passé? C'est qu'il a émis une vibration de haine. Cette vibration de haine est allée contacter l'énergie de quelqu'un d'autre qui, peut-être dans un moment de folie ou dans un moment de désespoir, a utilisé une arme et tué comme ceci gratuitement des gens qu'il ne connaissait pas. Vous avez eu d'ailleurs dans l'histoire et depuis que vous êtes jeune, connaissance de situations telles que ceci. Vous dites à ce moment-là, c'était un geste gratuit. Alors, il se peut que vous ayez compris que quelqu'un a tué pour vous, dans un sens qu'il a été l'instrument qui a reçu la vibration de votre colère ou de votre haine et qui a fait que le geste a été posé. Alors, nous vous dirons, s'il en est ainsi pour la création du karma, il en est ainsi aussi pour la libération. Il se peut, par exemple, que vous ayez dans votre entourage quelqu'un qui émet souvent des vibrations d'amour et que vous ne sachiez pas pourquoi, mais que tout à coup vous vous sentiez vous-même rempli de cette vibration et que tout à coup, vous vous sentez libéré, vous ne savez pas trop de quelle émotion qui vous habitait ou vous tenaillait dans l'énergie dans les jours précédents et vous avez l'impression que ceci est complètement fondu. Alors, c'est que vous avez été un réceptacle d'amour et nous avons dit précédemment que c'est la loi d'amour qui fait disparaître la loi karmique. Alors, il se peut que que si dans vos temps de méditation ou vos temps de réflexion ou votre temps de travail, tout simplement, souvent vous vous concentrez à l'intérieur de vous en disant « Je suis amour, je veux être amour et je ne veux émaner que des vibrations d'amour. » Nous vous dirons à ce moment-là, vous aurez réglé des multitudes de karmas sans même savoir avec qui vous les réglez. Vous pourrez aller un soir dans une grande assemblée, rencontrer des gens que vous ne connaissez pas et par cette seule vibration que vous émettez, régler des karmas avec tous ces gens.
Parallèlement à ce commentaire et à cette question, comment se libérer de cette puissance de vouloir comprendre pour pouvoir être sûr que j'ai libéré quelque chose?
Ça, c'est une question intéressante. Ça, c'est le jeu du mental. Le mental, lui, il veut tout gérer, il veut tout régler, il veut être le maître et il veut tout comprendre. Mais nous vous dirons, la loi d'amour, elle, n'est pas une loi qui veut comprendre. C'est une loi qui existe tout simplement. C'est l'être qui est dans la perfection de son être et qui se contemple dans sa propre perfection. Ça, c'est l'amour. Alors, nous vous dirons, l'amour, elle ne cherche pas à comprendre. Elle sait qu'elle sait déjà. Mais le mental inférieur, lui, il veut avoir des preuves. Il veut dire, je suis certaine que j'ai payé toutes les factures de ma carte de crédit. Mais nous vous dirons, s'il fait ceci, peut-être qu'il se présentera à la compagnie et que la compagnie dira, nous n'avons pas reçu votre paiement si c'est une compagnie qui est malhonnête et qu'elle vous fera payer en su quelque chose que quelqu'un aurait payé pour vous ou que vous avez payé pour vous, pour vous-même, sans vous en souvenir et qui était déjà disparu de votre aura. Alors, plus vous maintenez l'inquiétude, plus vous maintenez une forme pensée qui a des doutes, nous vous dirons, plus vous amplifiez ce que vous avez à régler, de sorte que vous pourrez payer 10 fois la même facture. Êtes-vous si intéressé? Sinon, nous vous dirons, laissez le mental se calmer. Dites-lui, tu peux te calmer. L'amour va travailler pour toi. Je vais te payer des vacances et toi, tu vas pouvoir te reposer au soleil. Alors que moi, par l'amour, je paierai toutes les factures. Alors, laissez le mental dormir. Laissez-le se reposer. Et ensuite, lorsque vous en aurez besoin pour comprendre comment passer dans la loi, passer à l'action dans une autre forme d'amour, il pourra devenir votre serviteur. Ne le congédiez pas. Donnez-lui les vacances. C'est très différent.
Très souvent, il semble qu'il y a...
Sans solde ou avec solde.
Avec des bénéfices marginaux? Non, point.
Il connaît ça.
Oui.
Il les prend. Il connaît tous les trucs.
Très souvent, il y a... Nous confondons souvent entre la conscience et vouloir comprendre ou comprendre. C'est possible de faire une distinction entre ceci. Puis est-ce nécessaire de prendre conscience pour libérer des aspects karmiques?
Non, point. Il y a des gens qui se tapent des multitudes, nous dirons, d'exercices torturants pour être capables de bien voir où ils ont tué, où ils ont... blessés, ou ils ont été des concubines, ou ils ont été, nous dirons, des femmes de rue et peut-être des soldats qui coupent les têtes ou qui torturent. Délivrez-vous de ceci. Plus vous entretenez ceci, nous vous dirons, plus votre émotion aime cette vibration et vous maintient dans le désir. le désir qui est ce mouvement d'insatisfaction éternelle et qui n'a pas de fin s'il demeure. Alors, nous vous dirons, vous pouvez tout simplement avoir un contact très étroit avec votre âme et lui dire, j'ai participé avec ma pensée et avec la collectivité à créer cette loi karmique et cette roue karmique. Ce que je demande maintenant, c'est d'être tellement habité par l'amour que mes milliards de cellules oublieront cet enseignement ancien pour apprendre l'enseignement nouveau qui est cet enseignement de l'amour et de la paix. Et je sais que le travail s'accomplit sans que je puisse, avec mon mental, être capable de contrôler ou de gérer cette information. Sachez alors que votre âme, qui ne demande pas mieux que vous soyez en contact avec des énergies supérieures, vous amènera à tourner volontiers et chaque jour votre pensée vers ce soleil parfait que vous êtes, du « Je suis ».
Ça, ça vaut un peu de lumière liquide, ça.
Certainement.
Ça va, ça va, ça va.
Ça, ce n'est pas la loi du sacrifice. C'est la loi de la bienveillance. La forme lave ses karmas.
C'est un sacrifice. Alors, la prochaine question, est-ce que l'ego d'une personne peut interférer avec l'énergie canalisée? Comme lorsque Marc Saint-Hilaire, dans un livre de Godfrey King, critique le channeling.
Nous vous dirons, lorsque quelqu'un critique, d'abord, ne le jugez pas. Il est une partie de votre miroir et de votre propre doute et de votre propre critique. Mais dites-vous que lorsque quelqu'un critique, c'est parce qu'il a peur. Il a peur de son propre canal, car cet homme est un canal très lumineux, mais qui se sent inconfortable avec certaines formes de canalisation. Et dans cet aspect, il a raison. Tout ce qu'il dit n'est pas mauvais et tout ce qu'il dit n'est pas la perfection absolue. Il est lui-même un être de transition ou un être qui est dans un passage évolutif. Il entraîne avec lui des gens qui cherchent la lumière. Cependant, à certains niveaux, il sème le doute parce que son ego a besoin d'être purifié. Et lorsque vous voyez ceci, dites-vous bien, je suis sage, je me suis créé un miroir de mon ego qui a besoin d'être purifié. Ne jugez pas cet homme, il est vous-même. Lorsque nous disons, il a raison quelque part, il y a des gens qui ont tellement le désir de devenir médium qu'ils feraient n'importe quoi. Et nous vous dirons, sans avoir fait un travail profond à l'intérieur d'eux-mêmes pour se contacter dans leur propre source, ils se créent un modèle extérieur et alors ils se créent en même temps des formes karmiques puisque ils acceptent d'entraîner dans une voie ou dans un courant de pensée des êtres qui, bien sûr, ont le libre arbitre et sont attirés par ce courant de pensée, mais qui peut parfois être courant de pensée qui conduit à l'ignorance. Alors, c'est contre cette forme qu'il en a. Et nous vous dirons, quelque part, il a peur de sa propre médiumnité. Il est lui-même le canal de cet homme appelé Godfrey King.
Alors, la prochaine question, cher Chariot Blanc. Pourrais-tu me définir d'où provient l'orgueil?
Elle vient du mental et elle vient de l'ego. Nous dirons que l'orgueil, c'est le piège le plus grand. C'est le piège le plus grand parce que celui qui est imbu d'orgueil n'est pas capable de voir la partie de lui qui est limite ou la partie de lui qui est séparée du tout. Nous dirons que l'orgueil, c'est le grand lieu de la séparation. C'est là que, nous dirons, s'est fait la plus grande division entre ce que vous appelez des êtres de lumière et des êtres incarnés. Et nous vous dirons que l'orgueil, c'est l'envers de la lumière, c'est le contraire de l'amour. C'est celui qui a tellement de haine pour lui-même qu'il préfère se voir au-dessus de tous pour ne pas voir la partie de lui qu'il a à entraîner dans la lumière. C'est le piège des pièges. Et nous vous dirons, il y a des gens qui ont même l'orgueil de se dire humbles alors qu'ils ne le sont pas. Celui qui est humble n'a pas besoin de dire qu'il est humble. Celui qui aime n'a pas besoin de dire qu'il aime. Ceci est une évidence. Et c'est pourquoi les plus grands maîtres qui ont, nous dirons, assimilé à l'intérieur de leur énergie des vibrations aussi pures que celles de l'humilité, de la simplicité, de l'amour, de la vérité, ceux-là deviennent des silencieux. Ils n'ont plus besoin de dire d'eux-mêmes. Nous vous dirons ce qu'ils sont est une évidence.
Est-ce que l'on peut se libérer de tous les karmas, quels qu'ils soient, sans avoir à vivre de grandes émotions ou un grand cheminement de compréhension face à ce karma ou ces karmas?
Certainement. Mais nous vous dirons que si vous vous mettez dans un état de conscience ou dans un état d'amour, nous appellerons ceci un état d'amour véritable, pas un état d'amour qui soit une vibration fausse, mais une vibration véritable qui se vit dans le silence du cœur et non pas dans une exaltation extérieure. Si vous êtes capable d'entrer dans cette forme d'état d'amour qui se vit le plus souvent dans un silence intérieur profond, nous vous dirons, vous pourrez bien sûr, par cet amour, faire que tous ces karmas seront libérés et sortis de votre énergie. Si vous acceptez, par exemple, qu'il y a quelque part dans vos vibrations ou dans vos cellules des petits glaciers, et que vous dites, je vais m'exposer au soleil de l'amour, et croire que l'amour est tout, et croire que l'amour est Dieu lui-même, et qu'en m'exposant à cette vibration de perfection absolue, ce soleil fera fondre pour moi ces limitations qui sont dans mon énergie. Vous n'aurez pas besoin de vous créer la douleur et la souffrance et l'angoisse et les cris. Mais si vous vivez cette douleur, si vous la sentez monter à l'intérieur de vous, ne la jugez pas, ne la condamnez pas. Prenez du temps pour la contacter et l'amener dans cet état de paix et cet état d'amour. Et c'est progressivement, jour après jour, que vous allez apprendre ceci. Et nous vous disons, ceci s'apprend.
Pouvez-vous nous parler de ce mot « générosité » aux yeux des humains?
Il a deux faces. la générosité ou le don de soi-même. Nous vous dirons, il y a des gens qui donnent tout d'eux-mêmes. Ils donnent leur argent, ils donnent leur temps, ils donnent leurs émotions, ils donnent leur corps physique, ils donnent leurs pensées, ils donnent aussi leurs biens matériels, à qui en veut bien. Et souvent, ils posent ces gestes pour avoir une ristourne, parce qu'ils croient qu'ils sont vides et qu'alors ils ont besoin de quelqu'un d'extérieur à eux pour être capable de leur dire l'amour, pour être capable de leur révéler l'amour qu'ils sont. Alors, ils donnent avec l'intention de recevoir. Cependant, ceux qui sont libérés, ceux que nous appelons les libérés, sont ceux qui ont franchi, nous dirons, d'une certaine façon, ceci ne veut pas dire à 100%, ceci peut être à 72 ou à 80 ou 82%, mais qui ont franchi d'une manière assez globale, nous dirons, l'influence d'être... Vous avez totalement changé l'énergie et que maintenant vous êtes don parfait et que vous êtes dans le service pur. Il se pourra que vous ayez compris l'état de service, que vous soyez engagé dans l'état de service, mais qu'il y ait des racines de vous qui soient encore dans l'énergie de sauveur. Ne vous jugez pas de ceci. Ce qui est important, c'est de toujours revenir à l'intérieur de vous pour bien recentrer l'intention. L'intention que vous avez de servir dans la pureté, dans la bonté, dans cet amour gratuit à l'univers. Revenez voir à l'intérieur de vous, après le service rendu, si vous ne cherchiez pas quelque part quelques petits bénéfices marginaux. Et nous vous dirons, si vous voyez que vous en avez cherché, et vous le saurez si vous êtes déçu des personnes à qui vous avez rendu service et qui, un peu plus tard, passent sur la rue en vous ignorant et vous direz, « Eh bien, voici, moi qui lui avais donné mon argent, moi qui avais été gentil pour lui, et là, il m'ignore comme si j'étais un pur étranger. » Vous saurez à ce moment-là que quelque part, vous cherchiez un bénéfice. Ne vous jugez pas. Dites, tiens, ma conscience vient de s'ouvrir. Je me rends compte des petits jeux que je joue et de comment je me joue à moi-même le tour. Et alors, à ce moment-là, vous pourrez réorienter votre intention. C'est comme de toujours replacer la boussole sur la direction du port.
Alors, la prochaine question, c'est Ramta nous décrit que lors de son existence terrestre, il est sorti de son corps physique, devenant ainsi l'idéal qu'il s'était fait du vent. Est-ce que ceci est une manifestation importante à venir dans notre vie et comment y arriver?
Il y a des milliards de manifestations. Lui, il s'est manifesté dans le vent, il est devenu le vent. Il aurait pu devenir le son, il aurait pu devenir la couleur, il aurait pu devenir la lumière, il aurait pu devenir une vibration d'amour, il aurait pu devenir un chant et une mélodie. Il a voulu devenir le vent pour expérimenter ce qu'était le vent. Mais ceci aussi est très limitatif, car le vent n'est pas tout. Le vent est une vibration très subtile. Si vous êtes capable de comprendre le langage caché derrière cet enseignement, vous verrez que ce que cet homme vous dit, c'est que vous êtes sans limite et que vous n'avez pas à expérimenter la seule forme que vous connaissez, qu'est votre corps physique, mais que vous aurez le pouvoir en vous donnant toujours, nous dirons, cette chance de vous libérer de ce qui est l'ancien pour vous orienter vers le nouveau. Vous aurez cette chance, bien sûr, d'expérimenter toutes sortes de vibrations. Et nous vous dirons que ceci est déjà fait. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais vous savez, le soir, pendant le sommeil, et quelque part dans votre multidimensionnalité, vous êtes à la fois le vent, le soleil, la mer, la lune, l'arbre qui pousse et le parfum de la fleur. Lorsque vous comprendrez que vous n'êtes plus divisé, que vous n'êtes divisé d'absolument rien, que vous comprendrez que vous êtes le tout et que vous serez capable de dire « je suis », vous ne direz pas « je suis Jacqueline » ou « je suis Pierrette », vous direz « je suis ». Et ce « je suis » est l'essence tellement pure que c'est l'essence du tout. Alors vous serez comme Ramta, le vent. Vous pouvez déjà l'être par votre pensée.
Ceci peut paraître une question simpliste, mais elle peut avoir une portée plus grande. Est-ce que les maîtres ascensionnés dansent?
Et pourquoi pas? Ceci vous apparaît une question simpliste parce que vous vous jugez de la poser. Mais nous vous dirons, qu'est-ce que danser? C'est exprimer le mouvement. Et alors, croyez-vous que les maîtres ascensionnés sont des barres métalliques? Non, pas du tout. Ils sont le mouvement parfait, comme le son est un mouvement, comme la lumière est un mouvement, comme la couleur est un mouvement, comme l'énergie est le mouvement parfait. Et nous vous dirons, tout est énergie, même si parfois vous voyez dans la matière dense des choses qui ne bougent pas. Vous pourriez pendant plusieurs heures vous asseoir et s'endormir, regarder la montagne pour voir si elle va bouger, mais elle ne bougera pas. Nous vous dirons parce qu'elle est un peu cristallisée dans sa forme énergétique. Mais cette forme, elle changera avec les milliards de siècles qui continueront et qui continueront à l'infini. Vous êtes actuellement dans un jour cosmique qui dure depuis des milliards d'années et qui durera encore des milliards d'années et des millions d'années. Mais nous vous dirons, il y aura des multitudes de jours cosmiques qui auront des multitudes de vibrations différentes et de créations différentes. Et bien sûr, vous connaîtrez tout ceci. Ne vous limitez pas par votre pensée.
Nos cinq sens primaires sur le plan ici, est-ce que ces sens nous maintiennent dans la loi karmique?
Ils vous maintiennent avec les trois chakras de la base. Et les trois chakras de la base sont ceux qui ont contribué à créer cette roue karmique. Mais si, à nouveau, vous vous placez dans la vibration de l'amour et vous demandez à l'amour qu'elle vous fasse voir avec les yeux de l'amour, qu'elle vous fasse entendre, qu'elle vous fasse toucher, qu'elle vous fasse goûter, qu'elle vous fasse, nous dirons, être dans cette vibration d'amour, alors nous dirons, vos sens se dégageront des vibrations appartenant à ces trois énergies ou ces trois mondes dont nous avons parlé précédemment et vous aurez des yeux nouveaux. Vous verrez, lorsque Paul de Tarse, qui allait dans des vibrations bien au-delà, nous dirons des chakras, parce qu'il avait franchi les paliers de l'astral, nous vous disons, il disait, « J'ai vu, mais je ne sais pas si l'œil humain pourrait voir ce que j'ai vu. Je ne sais pas si l'oreille pourrait entendre ce que j'ai entendu. » Parce que déjà, il avait tellement purifié ses sens qu'il était capable de vivre au-delà de ses sens et d'aller chercher des vibrations tellement plus grandes. Et c'est ce que nous appelons la voix du cœur, les yeux du cœur, les oreilles du cœur. Amenez vos oreilles et vos yeux dans votre cœur. Amenez vos mains et, nous dirons, votre langue dans votre cœur et laissez la transformation s'accomplir. Le cœur, c'est le lieu parfait de l'amour.
Les plus grands karmas que nous avons à nous libérer sont très souvent les personnes avec qui nous sommes les plus près.
Exactement.
À ce moment-là, est-ce que vous encouragez la séparation ou le détachement?
Nous encourageons la conscience. Et si au moment où vous avez une conscience parfaite de ce que vous vivez et de ce que vous avez créé, et que dans cette conscience claire et juste, c'est-à-dire qui n'est pas manipulée par le mental ou par l'émotion, mais uniquement par, nous dirons, une pensée très pure de devenir la totalité de ce que vous êtes, alors à ce moment-là, vous mettrez dans la balance le choix que vous avez à faire, de vous respecter en quittant une vibration ou de rester avec cette vibration pour aller jusqu'au bout de la loi du sacrifice. Mais nous vous dirons, vous n'êtes pas dans l'obligation de ni de vous retirer, ni de demeurer avec. Vous pouvez, en toute sagesse, décider que vous allez vous éloigner d'une vibration pour être capable de vous recontacter, de vous aimer, et nous vous dirons de vous libérer vous-même. Vous pouvez aussi décider que vous allez demeurer avec la personne et que vous allez vous contacter tellement parfaitement que vous ne serez plus touché par sa vibration. Nous disons cependant que cette voie est plus difficile et plus douloureuse. Mais c'est à vous de juger ceci. Il n'y a pas une loi qui régit la conscience humaine. La conscience, elle appartient à chacun. Et nous vous dirons, plus cette conscience est pure, plus elle est dans un amour qui est tourné vers vous-même, non point comme un objet de possession, mais comme étant le Dieu dans sa réalisation, c'est-à-dire qui est en train de se réaliser. Nous vous dirons, vous saurez avec certitude le geste que vous avez à poser. C'est l'amour qui vous guidera. Parfois, la séparation est indispensable. Parfois, elle ne l'est pas.
Alors, vous avez dit dans une conférence antérieure que cela fait des milliers d'années que l'on s'est attaché au plan terrestre et qu'il y a de multiples mondes que nous n'avons pas découverts. Pouvez-vous nous donner un avant-goût de ces mondes en nous les décrivant un peu, afin de nous motiver à leur ouvrir notre cœur? Et par le fait même, par rapport au thème de ce soir, est-ce qu'il y a du karma dans d'autres plans aussi?
Ça, c'est bien amusant. Nous vous dirons que s'il y a des plans où il y a une pensée semblable à la pensée humaine régie par le mental inférieur, il doit bien y avoir des petits malins qui ont créé cette loi. Nous vous expliquerons que la meilleure façon de pouvoir comprendre ce que sont ces univers parfaits que vous cherchez et où vous aimeriez bien aller habiter pour vous libérer plus rapidement, nous dirons, des lourdeurs du plan terrestre, nous dirons cet univers est la planète la plus grande et la plus belle que vous pouvez visiter, c'est votre cœur. Car là, à l'intérieur de vous, habite le divin. Et vous pouvez chercher à aller sur d'autres planètes ou dans d'autres plans pour fuir le plan terrestre. Mais si au lieu d'avoir cette forme pensée, vous vous disiez, je vais tellement devenir amour, je vais tellement actualiser cet amour et cette lumière à l'intérieur de moi, que la planète la plus grande et la plus belle pourra devenir la planète Terre. Nous vous dirons, la planète la plus grande, c'est vous-même. Un jour, vous comprendrez que les limitations de votre corps physique, les limitations du monde du désir et les limitations de votre mental n'étaient là que pour vous permettre de déblayer des couches pour accéder à la conscience. Et nous vous dirons, il y a des planètes et il y a des mondes qui ne sont pas encore créés, mais dont vous deviendrez les créateurs. Vous pouvez déjà commencer à les créer, c'est-à-dire tellement permettre à votre pensée de s'élargir que vous puissiez déjà créer par votre pensée ce que sera le futur, qui est d'ailleurs dans votre présent, puisque votre pensée du présent crée ce futur. Alors, mettez-y tout l'or, tous les diamants, toute la paix, toute la joie, toute la sérénité, toute la capacité créatrice que vous voudrez, et commencez à développer ceci. Imaginez que si chaque personne qui sont ici ce soir pose ce geste ou cette forme pensée, comment ceci s'agglomérant va déjà commencer à créer des égrégores pour ce futur qui n'est pas si loin. Nous devrons maintenant quitter la forme. Mais avant de vous quitter, nous vous disons...
Je m'excuse. Je sens une vibration et l'énergie de Jésus qui aimerait à ce moment-là, par vibration, mieux peut-être expliquer son passage ici et comment il s'est libéré lui-même du karma par rapport à la vie de victime et de sauveur. Est-ce que vous pouvez capter ces vibrations?
Certainement. Nous en avons déjà parlé d'ailleurs. Il est joyeux. Il est très présent. Il n'est pas présent par le canal, il est présent dans chaque personne ici, par la vibration, dans l'énergie, et surtout, nous dirons, dans le corps atmique. Alors, nous expliquerons que lorsque Jésus est venu sur le plan terrestre, il a accepté de passer par la loi du sacrifice, c'est-à-dire qu'il a accepté d'être ce qui est nommé dans vos écritures, l'agneau innocent qui est immolé. Il a accepté ceci avec une conscience tellement grande, qui est une conscience presque comparable à ce que nous pourrions appeler la conscience universelle ou la conscience d'une grande masse d'êtres qui s'ouvrirait simultanément à cette vibration qui dépasse la loi du sacrifice. Alors Jésus est venu, il a accepté d'être sauveur, il a accepté d'être victime, et il a même persécuté ceux qui étaient les vendeurs du temple. Alors il a accepté de franchir cette sixième initiation par une conscience très grande et par l'acceptation d'être lui-même le médium de l'énergie christique. En acceptant d'être ce canal de lumière, il s'est purifié lui-même, il a franchi cette sixième initiation, il a été cet agneau immolé, et ensuite il a dit « Tout est accompli », il a dépassé les plans de l'astral, et depuis il travaille. Et il travaille avec la race humaine, et c'est comme si actuellement vous receviez le reflux de la vague de cet amour, nous dirons, très grand qu'il a eu, et pour lui-même et pour l'humanité tout entière, d'accepter d'être ce canal de l'énergie christique et également d'accepter la loi du sacrifice pour la dépasser et enseigner la loi de l'amour. Alors nous vous dirons que bien sûr, il est présent sur le plan terrestre de façon très intensive. Il le fait parce qu'il sait que vous commencez à être capable de vous nourrir de cette vague qu'il a déferlée. Il n'était pas seul, il a été accompagné. Son énergie s'est multipliée par tous ceux qui ont ouvert leur cœur et qui ont senti cette vibration d'amour et qui l'ont émanée. Et nous vous dirons qu'actuellement, sur le plan terrestre, il y a des milliers d'êtres qui sont de toutes les nationalités et dans tous les pays qui sont en train d'ingérer cette énergie d'amour pour que ce grand corps christique dont Jésus était le canal, que ce grand corps puisse enfin se réaliser dans l'humanité et les humanités. Et sur ce, nous allons quitter la forme. Mais avant de partir, nous allons à chacun vous faire un petit cadeau. Nous allons vous offrir un petit gobelet doré dans lequel il y a de l'énergie christique. Nous vous dirons que ce gobelet est sans fond, ou c'est-à-dire qu'il se remplit incessamment. Buvez chaque jour de cette eau très pure, de l'amour, de la conscience et de l'énergie christique. Et lâchez prise sur tout le reste, le travail est déjà accompli. Amen.
Alors nous remercions le chariot blanc. Nous remercions également tous les êtres de lumière qui sont venus collaborer avec nous ce soir. Et nous accueillons leurs vibrations au gré de nos propres vibrations, dans un échange de collaboration, dans le son, le souffle et la lumière.
Amen.
Suivant le besoin, veuillez s'il vous plaît ajuster tout au vibratoire, le système sanguin et tout système physiologique qui ont pu être ralentis, afin que ceux-ci reprennent leurs vibrations de ici et maintenant. Que ce corps se réveille se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré.